Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Salut à tous, c'est Raphaël Dacrous pour le podcast BPM de Bouscapé, une émission pendant laquelle on échange avec des producteurs sur leur parcours, leur discographie et leur réflexion musicale. Et aujourd'hui, on accueille Johnny Ola. Salut Johnny.
Salut.
Tu vas bien ?
Ça va super.
Bienvenue ici dans BPM.
Merci beaucoup.
Merci à toi pour d'être présent. Johnny Ola, tu es producteur et ingénieur du son, cofondateur du label et studio Goldstein depuis 2017. On a pu te voir au crédit de disques pour Jazzy Baz, Edge, Dean Burbigo, Ratus ou encore Rob des Blocs. Alors avant de parler de ce parcours discographique, justement, j'aimerais qu'on parle d'abord de ton parcours d'auditeur. C'est quoi ton premier souvenir lié à la musique ?
C'est peut-être Brassens.
D'accord.
Avec donc, mes parents.
Avec tes parents, ouais.
Quand j'étais tout petit.
Mm-hmm. T'as une chanson ou un truc en particulier lié à Brassens ?
Brassens, ouais, il y en avait plusieurs. Hein. Je ne sais plus, je sais pas le nom de l'album particulièrement, mais il y avait un peu tous ces classiques. C'était sûrement un album best-of.
Ok.
Tu vois, tous ces classiques, Les Copains d'abord, Garo Gori, je sais plus, il y avait plein de sons que j'ai un peu oubliés. Il y avait ça, il y avait Buena Vista Social Club, pas mal aussi. Et mon père écoutait beaucoup de classiques, Mozart surtout.
Ok. Voilà. Tu as grandi avec des parents qui sont plutôt mélomanes, du coup, qui aiment vraiment la musique dans un environnement musical.
Ma mère, elle jouait de la guitare et du violon.
Ok. Donc en plus, avec des parents qui pratiquent.
Ouais.
Est-ce que toi, du coup, ils t'ont invité à justement pratiquer de la musique quand t'étais petit ? Est-ce que t'as joué d'un instrument ? T'as appris à en jouer ?
Ouais, j'ai fait du piano, mais alors vraiment, peut-être 2 ans, entre mes 6 et 8 ans, on va dire. Donc j'ai pas appris grand-chose à cet âge-là. Et après, j'ai complètement lâché jusqu'à mes 18 ans,
okay.
À peu près.
Ça correspond à quoi ? Au moment où, où tu commences à t'affirmer, toi, dans tes goûts musicaux aussi, c'est ça, peut-être ?
Non, parce que c'était déjà le cas en vrai, mais ça commence en fait par hasard quand mon meilleur pote m'a installé Ableton sur un ordi que j'avais là. Et voilà.
Okay.
Et on a commencé comme ça pour rigoler.
C'est quoi tes premiers souvenirs liés au rap ? C'est quoi un peu les premiers coups de cœur que tu as vu quand tu étais plus jeune ?
50.
Get Rich, la blanquette de Get Rich ou après ?
Get Rich, peut-être The Massacre.
Ouais. Donc, on est au milieu des années 2000.
Ouais, G-Unit aussi, un peu tout ça. J'écoutais pas mal. Booba, à fond. Quand j'étais petit, après, il y avait des trucs un peu aléatoires, genre deux sons de Cypress Hill, un son de je sais même plus, de Twista, genre des trucs, peut-être des compiles ou des trucs où je connaissais pas trop les artistes, mais j'écoutais des sons au hasard.
Bah, si t'as été adolescent dans les années 2000, en même temps, c'est l'époque où on commence déjà à se partager la musique par morceaux et moins
c'est
par album. Donc, il y a ce côté un peu shuffle, quoi.
C'est ça.
Ouais.
Et donc, ça, c'était dans début collège, un truc comme ça, tout début peut-être. Et puis, petit à petit, j'ai continué à écouter. Mon grand frère aussi écoutait beaucoup. Et lui, il a acheté tous les CD de la Mafia Quinn Free, des albums solo de chaque membre. Il avait tout. Du coup, j'écoutais ça beaucoup. Et puis, petit à petit, après, j'ai commencé à avoir aussi mes propres goûts, plus ce qui se faisait sur le moment, peut-être la section d'assaut, tout ça vers le début.
Ok, donc puis on est ouais, fin années 2000, début des années 2010,
voilà,
d'accord, ouais.
Ça, c'était vers fin de collège, on va dire. Après, toute l'explosion, l'entourage, Hugo TSR aussi à fond, plein de trucs, des Big L, tout ça. Enfin, tu vois, les références qu'ils faisaient, en fait, j'allais aussi écouter pas mal. Et puis voilà, après ça a tout ouvert, j'ai tout écouté. Hein.
Ça a ouvert des cases,
ça
a ouvert des portes.
Ouais. C'est ça, et puis la trap aussi quand ça arrivait. Surtout avec Booba en fait en France, il s'orientait petit à petit
tout
vers
à fait,
là. Et
ça a été un des premiers à démocratiser ce style de rap. Ouais,
exactement. Et vu que j'ai écouté Booba toute ma vie, du coup il m'a initié à toutes les... Enfin il m'a pas initié, mais bref, voilà, il m'a...
Encore une fois, ça a ouvert des portes vers d'autres styles de rap, quoi.
C'est ça.
De la même manière qu'en écoutant l'entourage, tu as pu avoir des références de rap new-yorkais des années 90.
Probablement, tu vois. Il y a des trucs que j'avais pas, que j'ai découvert entre autres avec toute cette scène, même sur les phases B par exemple, qu'ils choisissaient.
Bien sûr.
Tu vois, que je connaissais pas.
Oui, bien sûr, ils sélectionnaient beaucoup de phases B de rap new-yorkais classique des années 90. Ouais.
Et c'est peut-être vers là aussi que j'ai commencé à vraiment plus kiffer les prods.
Ok.
Tu vois, toute l'époque Mafia qu'un free, tout ça, je faisais pas trop gaffe aux prods. Mm-hmm. Genre, ça me traversait pas trop. Et puis petit à petit, vraiment, j'ai commencé à kiffer, à plus m'intéresser, même producteur, etc. Et voilà. Après, Ableton, et c'était parti.
Donc ça, c'était déjà dès l'adolescence que ce fameux pas dont tu parlais, en fait, te file Ableton, c'est ça ?
Non, j'avais 18 ans, je crois.
Ouais, fin de l'adolescence.
17 ans.
Ok.
Ouais, un truc comme ça. C'était juste avant le bac.
Ok.
Et du coup, ouais, on écoutait beaucoup de sons ensemble depuis tout le temps et tout. Et du coup, on a commencé, on continue encore à faire du son à ce jour.
C'est un producteur connu, du coup, c'est pour ça que...
Il est pas connu,
okay.
Mais il chante aussi, c'est un membre un peu de notre crew aussi, s'appelle Jasper.
Ah oui, Jasper, oui, qui est parfois co-crédité avec toi sur des trucs.
Voilà,
ouais,
préfères, ouais. Voilà, pas beaucoup de placements externes, etc., mais il fait beaucoup sa musique, mm-hmm. sa propre musique.
Ok.
Et très expérimental, etc., donc il va arriver bientôt.
Ok. Quand justement tu commençais à produire, est-ce que tu avais des modèles de production ? Est-ce qu'il y avait des producteurs que tu aimais beaucoup ? Parce qu'avant de créer, on s'inspire. Et dans le fait d'essayer de t'affirmer, de trouver un peu ta patte, il y avait des mecs justement qui t'inspiraient beaucoup, que ce soit en France ou aux États-Unis.
Ouais. Quand j'ai commencé, en vrai, c'était très simple rap New York, mm-hmm. le style. Donc Mobb Deep à fond.
Ouais. Donc et, rock, du coup, ouais.
Voilà. Et en France, Manny Day, c'est pas mal.
Ouais, super producteur.
Voilà, Manny Day. Vraiment, j'aimais trop en fait ces samples, ces... l'univers.
Il a vraiment, ouais, en plus surtout que Manny, il a vraiment cette culture d'aller chercher la boucle
voilà,
originale ou qui tue, quoi. Ouais.
C'est ça. Maintenant, je me suis un peu plus détaché de tout mm-hmm. ça, de ce style, mais j'aime bien quand même.
Ouais.
Mais au début, ouais, j'aimais beaucoup ça. Et Thérapie, à fond.
Ouais.
Ouais, j'étais fan de Thérapie aussi.
Ce voilà. qui est logique,
qui
étant
est
donné
logique,
que
l'époque,
tu écoutais, en plus, t'écoutais Booba, donc
j'écoutais
forcément.
J'écoutais Booba, Caris aussi, quand mm-hmm. c'est arrivé, je me suis explosé. Du coup, ouais, Thérapie, j'aimais trop leur style. Avec réécoute, bon, y a, ça a un peu vieilli, mais il y avait vraiment un truc puissant.
Ouais.
Je sais pas, j'aimais trop quand c'était très sombre, tu vois. Donc, ouais. Mais du coup, mes premières prods un peu trap, elles étaient pas terribles. C'était pas c'était pas encore, j'avais pas encore assez digéré, ouais. tout ça. Et puis, la trap était pas encore assez, je sais pas, elle avait pas encore atteint son prime.
Ouais, ouais. Tout à fait.
Et après, j'ai découvert un peu tout le reste des producteurs. Donc là, j'étais dans le sud de la France à cette époque. Ensuite, je suis arrivé à Paris à 20 ans.
Donc, t'as grandi où exactement, du coup ?
À Alès,
okay.
une ville du sud un peu perdue, pas loin de Nîmes.
Mm-hmm.
Et du coup, quand je suis arrivé à Paris, là, j'ai commencé aussi à travailler aux Grandes Villes Studios, notamment. Et puis, ça m'a aussi permis de découvrir plein de gens, plein de trucs. Donc, plein de nouveaux producteurs, plein de trucs. Notamment Midsizer aussi, j'aimais bien.
Mm-hmm.
Tu vois, quand j'étais dans le sud et tout, j'écoutais pas mal ce qu'il faisait, notamment avec Joke, Kyoto, là, j'aimais
tout
bien.
Fait. Sizer qui a en plus ce côté un peu caméléon, qui a aussi bien compris justement les délires trap,
ouais.
que c'est un mec qu'on a reçu la saison dernière, qui est un mec aussi très inspiré par JD.
Ouais,
il a vraiment ce truc caméléon dans sa manière de
c'est
produire,
ça.
Dans ses inspirations. Quoi.
Ouais. Et même Ikaz aussi, en fait, ouais. J'écoutais des sons de lui sans savoir, avec Dean au début et tout.
Mm-hmm.
Et puis c'est plus tard que j'ai capté en fait que c'était ce gars qui faisait du boom bap alors que il fait de la trap maintenant incroyable.
D'ouf.
Donc ouais, plein de trucs. Et puis après aussi beaucoup les Quinry, j'ai découvert Wanda Girl, j'ai pris une énorme gifle, Boy Wanda, tout ça, toute l'équipe de Kendrick et voilà, on va dire. Et puis petit à petit aussi le côté en fait de diviser on va dire la chaîne de production, c'est-à-dire ouais les gens qui font plus des samples, les gens qui font plus des prods. Et ça, quand j'ai découvert aussi, ça m'a ouvert vraiment les yeux sur plein de manières de faire dans la prod, on va dire. Mm-hmm. Tu vois que déjà on n'est pas obligé de faire tout seul,
bien sûr.
Et le fait de sampler pas que des vieux sons des années 70, ça existe et qu'il y a des gens qui font des samples, etc. Tu vois.
Tu m'offres une transition parfaite,
voilà.
Puisque avant l'émission, je t'ai demandé s'il y avait une production en particulier qui avait été importante dans ton parcours d'auditeur, justement. Et tu m'as cité la prod de Need In Me, qui est un morceau de Rihanna, c'était sur son dernier album en date, Hentai. I was good on my own, that's the way it was. You was good on the low for a 35.
on some faded love. Shit, what the fuck you complaining for? Feeling jaded up. Used to trip off that shit I was kicking to you. Had some fun on a run, though I'll give it to you, but baby.
Et ouais, bah celui-là, en fait, je sais pas, la simplicité. En fait, on va dire Rihanna, c'est à partir de cet album que j'ai pris un peu plus au sérieux, on va dire.
Ah, mais je pense que beaucoup de gens l'ont prise beaucoup plus en sérieux début, avec cet album-là.
Au début, j'écoutais quand ça passait les gros hits, mais je m'étais pas trop penché, on va dire. À partir de Bitch Bella with My Money et cet album-là, là, j'ai capté. Et ce son, en fait, il m'a trop surpris. Je pensais pas qu'elle pouvait faire des sons comme ça. Et la prod, elle est incroyable, en fait. Elle est toute simple. Mais je sais pas, tout est parfait. Je saurais pas la faire, cette prod, en fait. Tu vois. Alors, elle est vraiment... je sais pas. C'est audacieux. C'est simple en même temps. Elle est trop chaude dessus. Ouais, franchement, il n'y a pas... Faut l'écouter, en fait, et capter.
Ouais, cette prod, elle est vraiment très, très forte, effectivement. Et comme tu le disais, il y a ce côté chaîne de production, puisqu'on retrouve aussi bien Kak Harrell, qui est son producteur de longue date. Il y a DJ Mustard, Twice As Nice. Et il y a surtout un mec qui est crédité sous le nom de Ging, mais qui est en fait Frank Dukes.
Il s'appelle Ging maintenant.
Voilà, c'est ça. Qui est Frank Dukes. Et donc, justement, Frank Dukes, c'est quelqu'un qui... a été justement un des précurseurs dans ce que tu décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire des gens qui ont produit, créé de la musique spécifiquement pour être samplés, en fait.
Ouais.
En créant des morceaux avec un vrai grain, avec des mélodies originales, etc. Et ça bousculait un peu justement cette tradition du sample dans le rap, en fait,
ça
finalement.
Ça a tout changé, ça. Ouais. Franchement, c'est un génie. Parce que là, maintenant, la musique, elle se fait... peut-être 50% comme ça, en fait, ou peut-être même plus, je sais pas, mais il a inventé le concept de sample maker, en fait.
De sample maker, exactement.
Voilà. Et il a pas inventé pour que ce soit repris par un gars plus fort qui shine plus, genre lui, c'était le plus chaud. C'est encore, je trouve, franchement, le plus chaud là-dedans, même s'il a un peu quitté ça, il a laissé trop de sons incroyables, en fait.
De ouf.
Et quand j'ai découvert, en fait, ce mec... Je crois que je me baladais sur Genius et tout, je regardais des crédits un peu. À une époque, je regardais tous les crédits qui passaient. Et quand je suis tombé sur lui, en fait, j'ai compris ce qu'il faisait. Et du coup, il y a tellement de sons que je connaissais par cœur, je savais pas. Il était dessus. Et là, explosion dans ma tête. J'ai capté, en fait, lui. Il est en fait beaucoup plus fort que tous les autres producteurs avec qui il bosse à chaque fois.
C'est clair.
Qui se contentent de faire des drums, qui sont très bien en général. Mais... Il est tellement versatile dans les styles, etc., que je sais pas, c'est un des plus chauds. Hein.
Pour que les gens comprennent de qui on parle, par exemple, dans le rap français, un morceau comme Eskimo de Nekfeu avec Népal,
c'est samplé,
c'est un sample de
Kingsway.
De Kingsway, exactement, la Kingsway Library, qui est donc la librairie musicale qu'a créé justement Frank Dukes. Donc ça vous donne un peu une idée de ce qu'il était capable de faire. On dirait que c'est une mélodie qui sort de je ne sais quel disque de rock psychédélique des années 70. En fait, non, c'est un truc qui était récent, qui avait 2-3 ans au moment où ça a été samplé.
C'est ça.
Donc c'est par exemple cette mélodie que beaucoup de gens connaissent, bah, ça vient de là par exemple. Voilà. Ouais.
Et après, quand on s'intéresse un peu, en fait, tout le monde connaît plein de sons qu'il a produits.
De ouf.
C'est fou. Ouais, en fait, c'est ça. Au début, c'était un sampleur. Lui-même, il samplait.
Tout à fait. Moi, c'est un mec que j'ai connu dans les milieux des années 2000 qui faisait du boom bap, en fait, tu vois.
Moi, je le connaissais pas du tout, moi, à cette époque. Ouais, Fifty, notamment, il faisait pas mal.
Et je crois qu'il avait produit, même sur l'album de... Tu parlais de G-Unit, l'album de Mobb Deep qui est sorti chez G-Unit, par exemple. Il me semble qu'il a une prod dessus aussi.
OK.
Ou qui coproduit un des morceaux. Je dis peut-être une nannerie, mais il me semble que c'est ça. Mais en tout cas, ouais, c'est un mec que j'ai connu, moi, à cette époque-là, où c'était un producteur... porteur de sac à dos avec sa MPC, tu vois, de cette génération-là, quoi, de cette scène-là, quoi.
Et c'est fou qu'il
a réussi à faire la bascule.
Qu'il a réussi
comme ça,
à faire la bascule, ouais. Et bon, je sais pas, j'imagine qu'il devait savoir bien jouer déjà des trucs et tout, parce que bon, je pense pas que ça s'apprend en une seconde, mais
non, c'est clair.
Il a réussi vraiment à faire, en fait, même dans l'industrie, en fait, ça a tout changé.
Bien sûr.
Parce que du coup, maintenant, sampler des librairies que lui met en ligne, etc., il suffit d'acheter sa librairie ou tu peux avoir un contact direct pour clearer, là où à une époque il pouvait pas.
Ah, c'est clair.
C'était très compliqué.
Ah, la clearance des samples, c'est extrêmement compliqué, que ce soit aux États-Unis ou en France. Il a réussi à trouver un modèle économique très intéressant de ce point de vue.
Et à l'imposer maintenant, en fait, sans peut-être le vouloir, mais tout le monde fonctionne comme ça maintenant.
Tout à fait. J'aimerais qu'on vienne sur ton histoire personnelle. Donc tu disais, à un moment donné, tu as fait la bascule de Alès jusqu'à Paris. Pour quelles raisons? C'était des raisons professionnelles? C'était des raisons d'étudiants? Qu'est-ce qui a fait que tu as fait ce mouvement, cette migration?
Ouais, d'étudiants. En fait, j'ai fait une petite école de ciné BTS audiovisuel.
Ok.
Mais c'était surtout aussi, j'avais besoin de partir du sud où j'avais vécu toute ma vie. Parce que un peu, j'avais besoin de changer d'air.
Ouais, bien sûr.
Et du coup, j'avais un pied-à-terre à Massy.
Ok.
Chez ma grand-mère.
En 91.
Ouais, exactement. Du coup, je suis allé là-bas et puis j'ai fait une école en 2 ans dans le 15e.
Une école de
De BTS.
Ah, donc
BTS,
celui-là, le BTS
audiovisuel, ouais. C'est ça. Sans grand intérêt. Mais du coup, j'ai fait un stage chez Grandeville entre mes 2 années. Et puis à partir de là, bah, tout s'est lancé, on va dire. Tu vois, j'ai appris beaucoup de choses là-bas. Je faisais déjà beaucoup de prod. Je connaissais en fait à l'école un peu tout ce qu'on m'apprenait. Sur vraiment l'ordinateur.
Mm-hmm.
Le reste, c'était un peu de la perche, tu sais, captation sonore,
ouais, la prise de son,
des trucs,
ouais,
comme ça. Bon, c'était pas mon délire. Mais du coup, en studio, là, j'ai appris vraiment, je me suis épanoui, entre guillemets.
Et donc, comment ça s'est passé en fait? T'as envoyé
un message.
Une demande,
sur Facebook,
ouais, c'est ça, ouais.
Ouais, banal, hein. Ouais. C'est tout, hein. Je sais plus, à un moment, ils cherchaient des stagiaires. Voilà, j'ai envoyé un message et ils m'ont contacté, puis j'y suis allé.
On est vers quelle année, là, à peu près?
On est vers 2015 ou 2016,
ok,
je sais plus exactement. Et après 2017, j'ai monté le studio Goldstein, du coup, avec 2 potes de l'époque aussi. Ensuite, ça a évolué un peu. Il y a eu des petits mercato, et maintenant je suis avec Marty, que tu as vu,
que j'ai vu sur un autre format, chez Move, qui s'appelait La Prod, tout à fait, avec Wally Vaille.
Exactement. Et ben maintenant, on est 2 à gérer le studio et aussi le label avec Edge à 3.
Ok.
Et après, bah, dès que j'ai eu un studio, en fait, après, c'est parti. J'ai bossé à fond. J'ai rencontré plein de gens.
Bah ouais.
Voilà, je me suis beaucoup amélioré là-bas. J'ai appris à mixer. Et puis voilà, maintenant, on en est là tout de suite.
Justement, on va revenir sur tout ce parcours discographique. Juste pour que ce soit clair parfois dans la tête des gens, parce que vous êtes tellement proches qu'il peut y avoir confusion. On est bien d'accord que Goldstein, c'est une entité, Grandeville, c'en a une autre,
oui.
Et que en fait, c'est juste que vous collaborez fréquemment ensemble, quoi.
C'est ça.
C'est ça.
C'est ça. Bah, Grandeville, en fait, n'existe plus réellement à l'heure qu'il est en tant que studio, même label, en fait.
Okay.
C'est plus un groupe de potes. C'est plus d'une époque, tu vois. Mais on va dire, oui, maintenant, Goldstein, de base, c'était déjà 2 entités.
C'est ça.
On va dire, c'était un peu nos grands frères. Voilà.
Parlons justement de ton parcours discographique à partir du moment où tu arrives. Dans cet entourage de Grandeville, que tu fais ta formation là-bas et que tu commences justement à placer des productions. Moi, ce que j'ai retrouvé en termes justement de placement discographique, c'est à partir de 2017, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et c'est notamment une production pour Aladdin 135, un morceau qui s'appelle Répondeur. Est-ce que c'est une de tes premières, si ce n'est la première trace discographique qu'on trouve pour
peut-être,
toi?
Peut-être, je crois, il y a moyen. En fait, j'essaie de fouiller avant, mais... Bah, il y avait un petit truc ou deux qui était sorti sur YouTube, genre un clip, mais je crois qu'il existe même plus, avec un pote.
Ouais.
Mais oui, pour de vrai, c'est le vrai premier son, je crois, qui sort. C'est en 2017, ça?
C'est en 2017, ouais, tout à fait.
Ouais, donc
c'est ça,
Répondeur, je me rappelle, ouais, 2017. Et ben ouais, à partir de là, je crois que c'était mon premier crédit, on va dire. Mais j'avais déjà pas mal de trucs. Je faisais déjà beaucoup de sons, en fait. Juste, ça sortait pas encore.
Ok. C'était des...
C'était des maquettes, quoi, ouais. Des trucs avec plein de rappeurs.
Je me suis demandé, au vu de ton parcours, où t'es à la fois ingé son et producteur, si, en fait, cette opportunité aussi de t'épanouir en tant que producteur, ça vient aussi des opportunités professionnelles que t'as eues en tant qu'ingé son. Est-ce que parfois, il y a eu des trucs où...
Des liens entre les deux.
Ouais, c'est ça. C'est genre, t'es en studio... Il y a une prod, et en fait, comme toi, tu as cette double casquette, t'apportes, tu vois, ta patte en plus, quoi, sur un morceau, si l'opportunité se présente, quoi.
En fait, oui et non. En réalité, j'essaie quand même de... Enfin, ça dépend avec qui je bosse, on va dire, mais quand c'est, on va dire, pour des opportunités, comme tu dis, ça veut dire que ce serait peut-être des artistes avec qui je bosse pas réellement,
ouais.
En tant que prod.
D'accord.
Je me permets pas forcément...
D'intervenir
non plus, surtout si c'est la prod de quelqu'un, voilà, ou si c'est pas un type beat. Mais bon, ça c'était quand je faisais des sessions. Maintenant je fais plus trop en vrai des sessions, un peu avec sessions d'enregistrement, etc. Mais en fait, ça arrive plus dans l'autre sens, quand je bosse des prods et qu'ensuite on me demande de mixer les sons. Tu vois?
Ouais.
Donc ça, ensuite, ça me rapporte des... plus des opportunités de mix et puis même de collaboration du coup plus grosse, même de réal un peu, trucs comme ça. Mais c'est rare que via du mix, j'ai pu... J'ai fait le pas pour aller placer des prods. Je m'en rends compte.
Ok.
Je voulais le faire avec Ateyaba il y a à peu près 2 ans, là, ouais. 1 an et demi, quand j'ai mixé les sons pour son album. Mais
ouais.
Je sais pas, je me suis dit, ouais, peut-être un peu relou de. Le move, en fait, de on m'appelle pour du mix et après, au fait, je sais pas, j'ai pas fait. Bon.
Ok.
Mais c'est vrai qu'en vrai, je pourrais. J'aurais pu. Mais en fait, les gens avec qui je bosse, surtout, c'est des proches.
Bien sûr.
Donc, j'ai pas forcément besoin non plus de...
C'est sûr.
Enfin, ils savent, quoi. Ouais. Je fais les deux.
Tout à fait. Moi, en fait, finalement, tu vois, comme pour beaucoup de tes premiers crédits, c'est aussi en tant qu'ingé son, justement. Donc,
Ça a peut-être commencé même avant en tant qu'ingé son.
C'est ce que j'allais te dire aussi. C'est-à-dire qu'en fait, moi, finalement, là, quand j'ai revu tes crédits, justement, en préparant cet entretien, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais déjà écouté ton travail en tant qu'ingé son avec un album d'une artiste qui s'appelle Sabrina Belaouel. Qui a sorti un album en 2017.
Ouais.
D'une artiste R&B qui fait des choses très, très élégantes, très aériennes, etc. Mais sur lequel, en fait, t'avais quand même une prod ou une co-prod.
Deux même,
tu vois. Bah, tu vois, ouais. Moi, je me souviens, du coup, j'avais retrouvé True Love Dies.
True Love Dies avec Jimmy.
Jimmy, et, ouais.
Et après, il y a d'autres gens qui étaient passés dessus. Ouais, on a fini à plusieurs sur le son. Là, pour le coup, par exemple, je mixais le son et on a refait des trucs sur la prod.
Ouais.
Parce que c'était je sais pas, c'est... Elle avait envie, tu vois, qu'on essaie des trucs. Donc c'est comme ça aussi que je me suis retrouvé sur le deuxième son dont j'ai oublié le nom.
Et j'imagine que du coup, c'est cool de pouvoir... Ça met en confiance aussi, c'est-à-dire que toi, à la base, tu viens juste comme ingé son et on te fait confiance aussi comme musicien, quoi. Donc j'imagine que pour la prise de confiance, alors que t'es à tes débuts, finalement, c'est
totalement.
Cool.
Quoi. Ouais, j'ai eu de la chance au début aussi d'avoir... Bah, des gens même comme Sabrina, tu vois, qui faisait déjà du son, qui est un peu plus âgé que moi et qui pourrait bosser avec d'autres gens.
Qui a sorti d'ailleurs un album il n'y a pas très longtemps aussi, encore, ouais.
Et qui m'appelle justement pour bosser sur ses sons, tu vois, moi je kiffais. C'était le début, en fait, je faisais beaucoup de clients au studio, comme un studio, comme tous les studios.
Oui, bien sûr.
Mais c'est vraiment ces projets-là que je kiffais faire, en fait, comme Sabrina, par exemple, où vraiment la musique, elle me parlait plus. Donc c'est ceux-là qui m'ont un peu plus appris... même donner confiance.
L'année suivante, en 2018, il y a un album un peu, alors je dirais pas similaire, parce que ce serait réducteur pour ces deux artistes, mais en tout cas avec une approche R&B, avec des choses trap, etc. C'est l'album de Mira. Et d'ailleurs, c'est Mira et Johnny Ola, puisque t'es vraiment co-crédité comme auteur sur cet album-là, qui est l'album Pictures. Est-ce que tu peux nous en parler? C'était comment s'est fait cet album? Qui est cet artiste? Et est-ce que déjà, t'avais une réflexion sur ce que tu voulais faire musicalement, tu vois, aussi avec là, pour le coup, une interprète.
Bah, en fait, cet album, il n'était pas prévu. C'est arrivé comme ça. En fait, on ne se connaissait pas. On s'est rencontrés un jour. Et on a fait un premier son qui est dans le projet. C'est On The Low.
On The Low, ouais. I hit the cities too small for you. You're the one they're all talking about. Damn, made you made it. Then what you acting like it's not okay, okay. Got the problem, do your friends tell you about the hell I'm just going through, you know it's okay. Et puis on s'est grave bien entendu, du coup elle est repassée, on a fait un deuxième son, et puis pendant à peu près un an je crois on a fait ça, un an ou deux.
Du coup c'était 2017 à 2018. Et quand on a eu plein de sons, on s'est dit bah allez ok on sort. Mais j'avais pas réellement une vision de ce que je voulais faire, mais vu que c'est pas un rappeur, et je me sentais plus, d'humeur à tenter des trucs, un peu, à aller un peu plus loin en fait dans mes idées, parce qu'à l'époque j'étais beaucoup plus expérimental dans la prod. Quand on découvre un peu, tu
bien
vois,
sûr.
Je comprends pas, mais j'étais beaucoup plus jeune là-dedans.
Mais je comprends ce que tu veux dire.
J'avais cette folie un peu, maintenant je l'ai beaucoup moins. Je regrette un petit peu, mais du coup à l'époque, et puis elle aussi, elle était ouverte à en fait, à poser sur des trucs. Souvent, je faisais la prod à côté. Elle tentait, ça donnait des sons. Et au final, il a une couleur assez... Enfin, que j'aime beaucoup, en fait. Que je ne saurais même pas forcément refaire à l'heure d'aujourd'hui. Je trouve que c'est assez original. Et ça, c'est bien propre à mon style de prod de l'époque, tu vois. Et de ce que j'écoutais beaucoup. Des trucs plus expérimentaux aussi. Et ouais, en fait, on a fait... Je crois 7 morceaux.
Mm-hmm, je crois c'est un EP de 7 ou 8 morceaux,
effectivement.
Ouais, c'est
ça, 7 morceaux. J'ai tout mixé. Et puis, on a fait 2 clips et on l'a sorti. Et voilà, hein, franchement, c'était mon premier projet, entre guillemets, à proprement parler.
Ah, c'est une carte de visite pour toi aussi, quoi, j'imagine. Ouais.
Sur lequel, du coup, bah, je suis aussi un artiste, vu que c'est vraiment un duo. Tu vois, même si il y a des coprods sur le projet.
Tout à fait.
C'est vraiment un duo. Et puis, ça, j'étais fier de le montrer. C'était mon premier vrai... projet, tu vois, avec des vrais prods, donc je suis vraiment fier, etc. Pas juste une prod sur un album. Et à partir de là, ouais, je pense que ça m'a mis aussi en confiance sur le fait de pouvoir faire un projet entier, en fait. Tu vois.
En travaillant avec Grande Ville et puis en montant Goldstein, j'imagine vous rencontrez d'autres artistes et ça va expliquer peut-être certaines rencontres que tu vas faire. Parce que l'année suivante, t'es crédité sur un morceau d'FJ, par exemple, qui s'appelle Je m'abandonne.
Je veux changer mon art en or pour pas vivre dans le paraître pour de l'argent de poche. Les petits se barrent en cachette quand les parents dorment. Y'a trop de fils dans l'arène et trop de filles dans le harem. Dur de trouver ma reine. Chaque jour je m'abandonne, toujours plus que la veille. Maintenant,
qui est. Ou qui n'est plus peut-être, mais qui était le morceau le moins streamé de FJ. Fun fact. Il me disait ça il y a pas longtemps. Il dit bravo, t'as produit mon morceau le moins streamé. Ouais. C'était quand, en 2010
2019, ouais. 2019, je m'abandonne okay. En 2019, ouais.
Bah ouais, en fait, on se connaissait un peu aussi FJ avec le studio, on va dire.
Bien sûr.
À partir de l'ouverture du studio, tous les gens que j'avais rencontrés, même à Grande Ville avant, et tous les potes de potes, tout le monde passait, en fait. Donc, je crois qu'on se connaissait déjà depuis 2 ans, à peu près, tu vois, à ce moment-là, sans bien se connaître. Mais ouais, un jour, il me dit, vas-y... Je sais plus, il avait fini un son, il aimait pas la prod, il m'a dit refais une prod dessus. Puis je l'ai fait, je l'ai envoyé, il a sorti.
C'est un exercice intéressant, ça, justement, ouais, de reprendre à partir d'un a cappella, de refaire à ta sauce.
Ouais, c'est pas mal, j'aime bien. Bah, lui aussi, il est ouvert, tu vois. C'était un petit exercice, je me suis amusé, je l'ai fait, il a kiffé. Et puis, ça m'a fait plaisir, en fait, que tu vois, il m'envoie un message. Pareil, en fait, j'étais vraiment. Un peu un junior, entre guillemets, à cette époque-là, tu vois.
C'est sûr, en plus, avec cette équipe qui est déjà installée depuis une dizaine d'années.
Ouais. Exactement.
Avec leur producteur, avec qui ils bossent depuis longtemps aussi,
mais,
pour certains.
Mais, tu vois, ils ne sont pas du tout fermés.
Bien sûr.
Ils n'étaient pas fermés, en fait, juste en mode test. Tu vois, ils m'envoyaient des tests. Et puis là, ça a fonctionné. C'est devenu le morceau le moins streamé.
Le moins streamé, voilà, pour la petite histoire. Est-ce que c'est à cette époque aussi que tu rencontres Edge, visiblement probablement oui, comme il fait partie du Goldstein, mais aussi Rob Desbloch. Est-ce que c'est des gens que tu rencontres, en fait, finalement, tout ça, à peu près à cette époque-là aussi, quoi.
À cette époque-là, ouais. En vrai, ouais. Edge, quand j'étais en stage aux Grandes Villes, déjà, j'avais pas mon studio encore. Mm-hmm. Il traînait beaucoup là-bas.
Ouais.
Il faisait pas encore de son. Du coup, ouais, je l'ai rencontré là-bas, on s'entendait bien. Et puis, on a commencé à faire du son en 2017, peut-être, un truc comme ça, hein, ou 2018. Mais ça a mis longtemps avant de sortir.
Mm-hmm.
Rob Desbloch, je l'ai rencontré peut-être 2 ans plus tard, je pense, je sais plus, vers 2018, je dirais. Ou 2018, je pense.
Mm-hmm.
Ouais, il est venu au studio, il est passé au studio un jour en session, et puis on s'est grave bien entendu. Je l'ai trouvé super chaud, direct. Tu vois, c'est rare aussi qu'à l'époque, je me prenne vraiment des gens qui viennent. Tu vois, il y a beaucoup de rappeurs.
Bien sûr.
Et rappeurs amateurs, sans être négatif, être péjoratif. Mais... Et lui, vraiment, j'ai kiffé. Je l'ai trouvé super chaud. Du coup, je lui ai envoyé plein de prods. Et puis, on a commencé à faire du son. On s'est bien entendu. Et puis, on a continué. Je crois que le premier son qu'on a fait, carrément, c'est un son qu'on avait fait avec Edge. Et on a invité Rob dessus, en fait. Il s'appelle Lucide, qui est sorti.
Ouais, tout à fait.
Il y a longtemps aussi.
Souvent près du vide, n'approche pas. Hey, loin de fuir chaque obstacle. Lucide. Pas d'énigme insolvable, mais niveau réussite, je suis déjà en retard, pas hors cadre.
Même et à partir de là, on s'est grave bien entendu, on a continué. Lui et Edge aussi, tu vois, on fait un peu de son. Enfin là, en fait, maintenant, on est tous une grande famille. Donc,
bien sûr.
C'est marrant de se rappeler l'époque où on se connaissait pas trop, tu vois.
Et ce que je trouve intéressant, c'est que, et on aura l'occasion de revenir sur certains disques que tu as fait avec eux, mais c'est finalement des personnes avec qui vous évoluez, vous progressez ensemble, quoi. Toi, en tant que musicien, et eux, en tant justement qu'interprète, que ce soit dans leur écriture, dans leur interprétation, etc. J'ai l'impression que vous vous accompagnez vraiment tous les trois.
Totalement.
Vous êtes partis presque du même point, tu vois, comparé à d'autres artistes avec qui on va en parler, de Jazzy Bass, par exemple, tout à l'heure, qui était plus expérimenté que vous, quoi.
Ouais.
J'ai l'impression que vous vous accompagnez justement dans ces évolutions personnelles et du coup collectives, quoi.
Bah ouais, en vrai, comme je te disais, Edge, il a commencé à faire du son au studio avec moi. Moi, j'étais pas non plus. Je produisais pas depuis depuis des années, quoi. Mm-hmm. Ça devait faire 3 ans, peut-être. Je commençais à peine à me sentir chaud, on va dire. Rob, bon, il rappait depuis très longtemps, mais il allait pas en studio, il sortait pas trop de son, tu vois. Il a découvert un peu plus le travail en studio avec un producteur, avec d'autres gens, etc. Il écrivait beaucoup dans sa chambre. Donc, même s'il faisait déjà depuis un moment, il a aussi commencé, entre guillemets, on va dire, un nouvel arc avec nous. Mmh. Et puis, c'est vrai que tous les trois, même avec d'autres gens un peu aussi du collectif, tu vois, on a vraiment progressé ensemble. Tant moi, dans ce que j'essaie de produire, dans la qualité que je voulais leur proposer, que eux, qui essaient des nouveaux trucs sur des nouvelles prods. Edge, qui venait de commencer, donc qui a tout appris très rapidement, en réalité, en ses premiers sons, on va dire, à partir du 4e son, et c'était déjà super chaud, en fait. Tu vois, et même le premier, il est très chaud, déjà. Mais ouais, en fait, on a progressé, mais on n'a pas sorti de son tout de suite. Mm-hmm. Moi, j'étais pas trop familier avec le fait de sortir des sons, à part avec Maera, tu vois. Mm-hmm. Mais on a attendu un peu, je sais pas exactement pourquoi, mais je pense qu'on se sentait pas que c'était encore réellement à la hauteur de ce qu'on voulait faire. Là, j'englobe tout le monde, mais en vrai, c'est un peu chacun.
Bien sûr.
Tu vois, c'était une histoire pour chaque artiste, mais c'est un peu le cas pour tout le monde, en vrai. Et on a attendu peut-être un peu trop avec Rob, mais avec Edge, en tout cas, quand on a commencé avec le projet Off.
Qui sort en 2020, ouais.
Qui sort en 2020. Il a, alors, c'est soit en 2020, soit en 2019. Il a sorti un petit EP juste avant, qu'on a fait en parallèle, mais en fait, c'était juste des sons qu'il avait déjà. Qu'il a voulu sortir avant pour prendre confiance, en fait, sortir un premier truc. Et le projet Off, en vrai, c'est tous nos meilleurs sons, on va dire, 2 ans avant la sortie, qu'on a gardé. Et là, on était vraiment contents de le sortir parce que on sentait qu'il y avait vraiment un truc, tu vois, qu'il y avait vraiment un niveau qui nous convenait, que tout le monde autour de nous vraiment kiffait de ouf les sons. On était un peu exigeants envers nous-mêmes, tu vois, même si nos potes kiffent.
Bien sûr.
On a jeté beaucoup de trucs, ce qui est normal. Et avec Rob aussi, du coup, je sais. Il a commencé par des singles, il me semble, mais en fait, on a sorti un EP commun en 2020. Mm-hmm. Donc, comme Edge, en réalité, avant même, qui s'appelle Replay.
Ouais.
Sur lequel je suis aussi en artiste.
Tout à fait.
Et on va dire Off et Replay, les deux projets, c'est vraiment deux projets sur lesquels j'étais majoritaire. Replay, j'ai fait toutes les prods et Off, à l'exception d'une prod, j'ai fait toutes les prods aussi. Mmh. Et là, j'ai l'impression que c'était vraiment la consécration de notre taf des 2, 3, 4 dernières années qui arrivait vraiment tu vois, à maturité, on va dire. Et on s'est senti en confiance de sortir tout ça. Et en vrai, je kiffe encore vraiment écouter ces projets, tu vois. Je les écoute pas souvent, mais quand je les écoute, je suis content. C'est pas comme si on avait sorti trop tôt des trucs et qu'on se dit ah ouais, mais bon.
Vous auriez sorti les brouillons, quoi, finalement.
Ouais, c'est ça. Ouais, tu connais des fois des gens te font écouter un son, ah ouais, mais il est vieux, il est pas terrible et tout. Hein. Bon, j'avoue, en vrai, là, je suis assez content de au moins ce point de départ, tu vois, pour les deux. Jusqu'à maintenant, on a continué, tu vois.
Sur ces deux premiers disques, en fait, sur ces deux premières cartes de visite. Un peu importante là, pour l'un et pour l'autre, mais aussi pour toi. Ce serait quoi peut-être tes prods préférés, si tu te souviens un peu du travail que tu as fait
dessus ? Sur les deux projets, alors...
Sur Replay et sur Off, respectivement.
Alors, sur Replay, c'est la prod du son qui s'appelle Hola Rob.
Ouais.
C'est une espèce de prod de découpeur. Ouais, je saurais même pas la refaire, celle-là. Vraiment, je la kiffe.
J'avance un peu plus sûr de moi à chaque son, comme si je poussais la fonte. J'ai rien à foutre à part doubler ma com, sale con. Toi quand ça t'arrangera, tu feras le compte. Ces temps-ci, j'oublie un peu ma promo, je commence à tousser ma con.
Et sur Edge, en vrai, Sur Edge, il y en a peut-être plus. Peut-être le morceau Off.
On verra plus tard pour la belle vie. Bentley Villa Sunset. Pour l'instant, c'est le 5G. Tassé dans un joint de 5G. Dans ma tête, c'est la versée, ça peu importe le temps. Le soleil, au final, je le vois pas souvent.
C'est aussi grâce à Lubensky, en coprod, ouais. qui a sublimé le son.
Lubensky, donc, qui est guitariste, même qui est musicien, multi-instrumentiste, en fait.
C'est une sorte de Frank Dukes, hein, en vrai, dans le parcours.
Ouais, tout à fait, ouais.
Tu vois, qui faisait des beats à la MPC, ouais. Et puis il fait des instruments, et puis en fait, il sait tout faire, en fait. Ouais. Qui, lui, a vraiment la capacité de transformer un son, de l'amener genre le plus haut possible, même quand il est tout seul, en fait. Qui fait un son tout seul, c'est toujours les meilleurs prods de l'album, c'est lui, en fait, à chaque fois.
Et donc, pour eux, il est intervenu. Ouais, et puis qui a travaillé, par exemple, sur l'album Les Étoiles Vagantes de Nekfeu aussi.
Bah, sur même les trois albums de Nekfeu. Ouais, en vrai, les trois albums.
Je prenais des références récentes, mais effectivement, c'est vrai. Ça remonte à
peu près. Toute la carrière, on va dire. C'est ça, exactement. Qui a travaillé sur, sur plein de trucs. Hein.
Plein de choses.
Faut aller voir ses crédits, ouais. et écouter. Hein.
Ce qui est intéressant quand on écoute tes premières prods entre 2017 jusqu'à 2020, c'est qu'il y a ce truc très... à la fois un peu trap psychédélique, un peu épuré, nocturne aussi. Je trouve qu'il y a un truc très nocturne qui ressort de tes sons. Je ne sais pas si c'est quelque chose dont tu t'es aperçu avec le recul des années, si c'est quelque chose qui était conscientisé parce que c'était cette teinte musicale que tu voulais avoir. Voilà, sur ce constat que je fais, je ne sais pas ce que tu ressens sur ta
teinte musicale. Ouais, c'est vrai, hein. C'est le cas. Bah, déjà, j'ai beaucoup de mal à faire des prods joyeuses, entre guillemets. Mm-hmm. Je trouve que c'est très dur à faire sans être gnangnan.
Peut-être ces dernières années un peu plus.
Ces dernières années, un peu plus. Ouais. J'ai trouvé un peu plus, tu vois, comment faire pour que ça me plaise. Mais à cette époque-là, j'écoutais beaucoup de trucs un peu sombres, j'avoue. Hein. Beaucoup, on appelle ça du crack. Donc, j'écoutais des prods de crack, j'en faisais beaucoup. Et des trucs mélancoliques, ouais. En vrai. Ouais, c'est ça. Hein. Et puis, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, pour moi, c'était plus facile à faire. Donc, je me suis beaucoup plus tourné vers ça, en fait. C'était plus naturel. Et c'est vrai que là, par exemple, dans ces deux projets qu'on a parlé, il n'y a pas vraiment un son joyeux. Il n'y a pas vraiment un son joyeux. Hein. Peut-être Copacabana de Edge.
Ouais, c'est ça.
Avec Monomythe. Il a rapporté le côté soleil un peu sur le son.
Bâton du diable sur bâton du diable, produit du mal dans mon cohiba. Je m'en fume, je crois que j'ai le vaisseau en biteux état. Dépité, je fais la même qu'hier, j'ai fruit le même produit que la veille. Je mélange plus le coca, je vois le reflet de mes yeux rouges dans le fond de mon revers.
Je te parle de cette teinte-là parce que ta première collaboration qui sort avec Jazzy Baz,
ouais.
Qui est le morceau Benny Blanco.
C'est vrai, c'est le premier. Alors ça, c'est par exemple du crack.
Ça c'est probablement du crack. Là,
du crack.
Là, on y est là.
Ouais, totalement. Et ça, j'aimais beaucoup. J'en fais encore un peu de temps en temps, mais ouais, des prods super sombres qui tabassent. Mm-hmm. Je sais pas, il y a un défouloir un peu.
Totalement.
C'est un défouloir. Et je suis très content de ce son avec Jazzy. On le joue encore en festival, en concert et tout à chaque fois.
Je trouve que c'était un morceau après l'album Nuit, qui est sorti en 2018 de mémoire. Je trouve que c'était une nouvelle note d'intention de « Ok, j'ai fait ça ». Je sais pas si c'était conscient de sa part ou pas, tu vois, mais... Oubliez pas que je suis ça aussi, que je suis ce rappeur-là qui peut arriver sur ce genre de prod-là. C'était un peu un rappel, tu vois, je trouvais
cette
manière.
Parce que c'est vrai que sur Nuit, il n'y avait pas trop de couleurs.
C'était un peu plus chanson, presque, voilà.
C'est ça. Et là, je crois qu'il avait envie d'en découdre.
Il voulait la bagarre. Il fallait la prod qui allait avec, donc ça marchait
c'est
bien.
C'est ça, c'est ça. Ouais. Et puis, on écoutait beaucoup de trucs qui tabassaient à ce moment-là, ensemble et tout. On s'est dit, vas-y, il faut qu'on fasse un son qui tabasse le plus possible. Mm-hmm. Et du coup, ouais, hein, j'ai fait la prod, il a écrit ses meilleures phases pendant une semaine et voilà, il a posé.
Sous la main de Brigitte Macron, elle veut un vrai patron. Il y aura plus de mecs comme moi si tu limites l'immigration. Je suis ce que ma ville reflète, plus d'honneur c'est le prix de leur fame. Je brise leurs rêves, ils se ressemblent tous comme les maillots du Pérou et de River Plate.
Il est sorti pendant le confinement en plus ce son,
tout à
je
fait.
M'en rappelle.
Tout à fait.
J'avais oublié, je savais pas trop qu'il allait sortir et je me suis réveillé, je vois... Tout le monde qui en parle, ouais, Jazzy Baz, le retour. En plus, c'était un peu son retour post-nuit, on va dire.
Ouais, tout à fait.
Après, genre, ouais, 2 ans. Et, mais on avait déjà commencé.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
On avait déjà commencé à bosser sur Memoria quand même à cette époque, on était déjà bien dedans.
D'accord.
2020, puis qui sort en 2020.
2022.
Il sort début 2022, ok, où on était déjà dedans. Mais il sort plus tard que dans mes souvenirs.
C'est peut-être à cause du confinement, je voulais justement te poser la question aussi, c'est-à-dire que pour les producteurs, forcément, de se retrouver, comme tous les artistes en fait, de se retrouver de nouveau isolé, c'est-à-dire à refaire du son un peu tout seul ou à distance, c'est une chose, mais en plus, toi, tu gères, tu vois, et tu as ce travail en studio où il y a ce côté présentiel et ce côté échange. Comment toi, tu as vécu cette période? Est-ce que ça a été compliqué professionnellement aussi? Est-ce que ça a eu un impact sur ta créativité aussi, tu vois, positivement ou négativement? J'en sais rien.
En fait, je l'ai très, très bien vécu parce que je suis parti à la campagne avec Edge et Rob.
Ok.
Voilà, pendant 2 mois. On était 7 dans une maison campagne au bord d'un lac. On a eu de la chance.
Bah ouais, c'est clair.
Ouais, on est parti, je crois, à 7h du matin, le jour du confinement. Bam vite avant qu'ils ferment tout, on est parti. Et du coup, j'ai pris le micro, mes enceintes, tout. On a fait une cabine avec des couettes, un durag en guise d'antipop, des trucs de fortune. Et,
les meilleures conditions, ouais, ça, pour faire de la bonne musique.
J'étais hyper productif là-bas, eux aussi, enfin, tous les trois. Moi, j'ai dû faire 80 prods. Eux, on a fait au moins une vingtaine de sons. Il y en a qui sont sortis d'ailleurs, La Robe, je crois la moitié, on l'a fait là-bas.
Ok.
J'ai fait beaucoup de prod, que j'ai envoyé. Et puis en fait, on travaillait un peu à distance parce que tous nos potes étaient chacun chez eux. Du coup, on a fait des feats en fait comme ça à distance où on enregistrait des trucs, on envoyait, on récupérait un couplet. Et franchement, c'était hyper bien. Tu vois, j'avais pas trop de téléphone, coupé un peu de tout, on jouait à la play, on se faisait à manger, on faisait du son. Du coup, là où ça aurait pu me couper un peu, peut-être dans ma productivité, d'être coupé en fait des gens et tout, vu que j'étais avec mes potes là, j'avoue ça a grave aidé. Et on a notamment fait le son Schéma Monotone de Edge là-bas, genre one shot au soleil comme ça d'un coup.
Trop bien.
Ouais, genre très très vite. Et je pense qu'on l'aurait pas fait ailleurs, tu vois, on l'aurait pas fait à Paris.
Parce
studio.
Que c'était le, ça a capturé un mood
ouais,
d'un moment.
Vraiment un moment. C'est ça vraiment. En fait, au bout d'un moment, c'est devenu machinal de faire du son tous les jours. Je faisais des prods, tu vois, sur la terrasse. Il y avait d'autres amis qui étaient là et tout. Et puis, je sais pas, en fait, dans cette dynamique, avec la légèreté d'esprit d'être là-bas et tout, on s'est pas posé de questions, on a fait le son comme ça, tu vois. C'est vraiment, il était spontané.
En galère dans mon texte, y'a pas grand-chose à faire à part cramer un ster. Mes humeurs sont instables, je suis constamment en contradiction avec moi-même. Y'a des jours où je veux kicker un stade, d'autres où tout paraît fade. Est-ce que prendre le large calmerait tous mes maux? Et la vue d'en haut rendrait mon ciel plus beau.
On savait que celui-là il avait vraiment un truc en plus que tout ce qu'on avait fait, tu vois. C'était un peu le compliqué du projet d'avant, mais encore plus. Et c'est vrai que quand on a fait, on avait déjà des sons et tout pour le projet de Edge Offshore. Mais quand on a eu ce son, je pense qu'il y a eu un petit déclic dans nos têtes.
C'est pas un truc, quoi.
Ouais, on a gagné 10% dans l'album, en fait. C'est avec juste un son ou même plus, en fait. Juste un déclic de confiance. Et ça a grave aidé. Ça nous a mis bien en confiance, celui-là.
Donc ça, c'est sur le disque Offshore, qui sort en 2021.
Ouais.
2021, c'est à ce moment-là, je trouve, où tu commences à prendre en confiance, justement, et en capacité à interagir avec les artistes qui sont proches de toi parce qu'il y a Private Club qui sort cette année-là, donc avec Jazzy, Edge et SO. Il y a la série DEP Appartement de Rob Desblocs, donc 303, 404 et 505.
Ouais.
Tout ça, en fait, ça naît justement de ces, de cette proximité, de cette complicité, en fait, j'imagine, avec ces artistes-là. Si on prend la série des EP de Rob Des Blocs, par exemple, est-ce que c'était une idée précise de faire une série d'EP comme ça, ou est-ce que c'est parce que simplement vous produisiez, vous enregistriez beaucoup et qu'au final, bah, au bout d'un moment, il y a de la matière pour faire ces petits formats, quoi.
Ouais, y avait beaucoup de matière. Mm-hmm. Et puis, c'est lui qui avait eu l'idée de faire une série. En fait, je crois que ça a commencé juste par un premier son qui s'appelait Appartement 101, je crois. Mm-hmm. Et bref, en tout cas, il a eu l'idée d'en faire une petite série. En fait, c'était le bon moyen pour nous de sortir plein de sons. En fait, on bossait déjà sur un projet qui n'est jamais réellement sorti, qui est sorti sous la forme d'EP, mais on bossait déjà sur un truc et on avait des sons de côté et on voulait quand même les sortir. Donc, ça a été vraiment l'occasion de sortir. Et pour Rob, qui ne sortait pas beaucoup de sons non plus, en tout cas, à part Replay, tu vois, l'EP Replay, il n'avait pas de projet à proprement parler. C'était l'occasion d'être un peu récurrent, pour lui déjà, de se libérer mentalement de sons qui sortent. Et aussi d'être présent, en fait, tu vois, dans le paysage. Et en vrai, ça nous a bien permis, en fait, même de sortir des sons, de voir ce qu'on aimait, ce qu'on n'aimait pas. Tu vois, histoire de, en fait, d'écrémer à chaque fois. Mmh. Et puis aussi, ça faisait du bien de sortir. Des fois, par exemple, on savait qu'on voulait sortir le 404 vers cette période. Mmh. On a nos quatre sons, et ben en fait, ça se trouve, il y en a un qui saute parce qu'on en fait un dernier de dernière minute. Mm-hmm. Et ça fait du bien aussi, tu vois, de sortir vite des trucs.
D'être sûr que dans cette spontanéité créative, quoi.
C'est ça, parce qu'on a beaucoup gardé aussi des maquettes. Avec Rob, il fait beaucoup de maquettes. Donc, je pense que c'était vraiment un besoin de sortir, de la musique, en fait, tout simplement.
Est-ce que, tout à l'heure, on parlait par exemple d'un morceau comme Schéma Monotone, qui, je trouve, a défini pas mal de choses musicalement sur ce qu'est capable de faire Edge. Est-ce que de la même manière, y avait une intention, toi, en tant que producteur et a fortiori aussi de réalisateur, du coup, pour Rob, de définir une esthétique musicale, une couleur musicale pour lui, justement, sur ses EP?
Ouais. Après, c'est... Moi, j'ai un peu ma vision de... Tu vois, et lui aussi,
il a la sienne.
Qui se rejoignent sur certains points. Mais je dirais, sur le projet Replay, le petit EP... Mm-hmm. Bah, j'aimais bien, je trouvais que ça lui allait bien, ce style un peu, pour le coup c'est un peu du crack encore cette EP, tu vois, mais que ça lui allait bien, et notamment des prods un peu différentes, tu vois, il y a le morceau Replay, une prod un peu rapide, comme une sorte de house un peu très très sombre.
Oui, c'est vrai que c'est plus un tempo que la plupart des morceaux que vous faites, ouais.
Et je trouve que ça lui va bien, tu vois, on a fait récemment un morceau qui s'appelle Pourquoi, on a sorti récemment, et je trouve qu'en fait ça lui va bien, ces rythmiques là vu que c'est, il a ce côté vraiment rappeur technique, etc. Bah, ça, je sais pas pourquoi, et dans ce qu'il décrit aussi, il y a un certain personnage un peu, il aime bien aller dehors, tu vois, il parle un peu de ses problèmes, il boit, il fume, c'est le bad boy un peu, hein, vulgairement. Je trouve que ça lui va bien, des prods justement moins conventionnels. Donc j'avoue, cette image, cet univers, en tout cas, on essaie de le travailler un peu, tu vois. Mais tout en gardant quand même un côté un peu classique, parce que bon, c'est un fan de rap.
Voilà, c'est ça.
Il connaît tout ce qui existe entre les années 90 et maintenant. Donc, il est quand même attaché, tu vois, côté de rappeur et tout, mais... On essaie quand même de bosser des trucs qui changent un peu, tu vois. Moi, en tout cas, j'aime bien lui proposer des prods un peu différentes, et quand ça lui parle, qu'il essaye, souvent, ça donne des sons que je kiffe.
Et je trouve que c'est encore plus vrai sur ses dernières sorties.
Ouais.
Je pense, par exemple, sur Rien ne change, je trouve que tu as une forme de prise de confiance musicale.
Ouais.
Je pense à un morceau comme Temps plein, par exemple, où tu as cette ligne de basse, cette rythmique un peu plus accidentée. C'est pas des choses qu'on entendait avant chez toi.
Ouais.
Donc, ce truc, effectivement, d'essayer des choses avec lui, ça sent encore plus à mesure que votre discographie à tous les deux avance, quoi.
Sur Panam, y'a même plus d'air propre. De K22, on est des QR codes. Et quand je te parle, enlève tes deux AirPods. Y'a trop de combats que je valide pas. J'écoute Mathieu Longa, t'es Walidia. Je fais moins l'idiot, je me tiens loin de ceux qui rallient le job.
Je pense que nos goûts s'affinent, tu vois, petit à petit. Je parle pour moi, mais mes skills, entre guillemets, se sont un peu affinés aussi.
Bien sûr.
Vois, au début, je faisais vraiment beaucoup de boom-bap, sample, etc. Mais c'était pas le même boom-bap, entre guillemets, que par exemple la prod de Temps plein. Et
même, je sais pas, tu vois, sur le même disque à Long Beach avec cette ambiance, ouais, cette ambiance très californienne, plus détendue aussi, c'est pas des choses que
c'est
tu faisais
avant. C'est un des seuls sons un peu joyeux, j'avoue que...
Exactement. Mais ça reste aussi, arrivé, tu vois, avec sa ligne de basse très grave, ouais, tu vois, en même temps, il y a aussi une forme de sévérité aussi, tu vois, qui se dégage, ouais, du morceau. Donc, je trouve que c'est des trucs, au fur et à mesure, tu t'affirmes. Et tu vois, typiquement, moi, des morceaux comme ça, mais qu'on entend aussi dans un morceau comme Rio sur Saboteur, ouais, c'est des trucs... C'est pour ça que je te parlais peut-être d'affirmation musicale, de prise de confiance, c'est que des trucs qu'on n'entendait pas forcément avant chez toi.
C'est vrai.
Et que tu te permets plus facilement de faire aujourd'hui, quoi.
C'est vrai, bah au final, c'est des trucs que j'avais déjà testé aussi, enfin pas ces morceaux précis, mais des styles, tu vois. C'est juste que dans la réalité, les producteurs, soit on produit avec l'artiste et on fait le son, soit on produit de notre côté et on envoie, et si ça plaît, c'est choisi et ça sort. Et pour le coup, j'ai testé plein de trucs qui n'ont jamais été pris et... Ouais. Et donc plein de styles en vrai, tu vois.
Ça, c'est la loterie pour vous tous les producteurs, ça c'est clair.
C'est ça, exactement. Mais plus le temps passe et plus, on va dire, moins je fais de prod, mais plus elles sont prises, on va dire, tu vois. C'est plus, on se capte et on fait le bon son direct. Mais c'est vrai que ces sonorités-là, on les entendait pas trop avant. Et peut-être que c'est aussi un peu des fois des cycles un peu aussi, tu vois. J'avais un peu fait sûrement le tour de... La trap, tu vois, au bout d'un moment. Un
truc obscur.
Voilà, ouais. Par exemple, Rio, on l'a fait en résidence avec JJ et Baker. Il faisait beau. On était dans une grande villa. C'était un peu le cadre aussi, tu vois.
Bien sûr.
On écoutait des sons, on écoutait Monissa in Suède et trucs comme ça. Du coup, ça donnait l'idée. Et pour Long Beach, je sais plus, on s'est fait un kiff. Un soir.
On capture le moment.
En fait, des fois, on a une inspi, on l'a fait, et puis, ouais, en fait, il se trouve que c'est un truc un peu West Coast qui sort de d'habitude, et c'est ça qui nous fait kiffer aussi, de pas refaire la même prod tout le temps.
Bien sûr.
Tu vois, c'est dur aussi, au bout d'un moment, d'être excité quand les mêmes placements, les batteries, les samples, les trucs et tout, c'est assez redondant, tu vois. Ça fait du bien, des fois, juste de pas trop réfléchir, de se faire kiffer. Souvent, ça donne des bons sons, des meilleurs sons.
Débarque jamais sans faire de dommages. Plutôt de penser qu'au mal. C'est comme un ce que j'évite le coma. Demain je vais canner, je me démène aujourd'hui. Ouais, j'ai tellement ramé, faut que je sois prêt le jour J. Balèque de plaire, y'a deux choses que j'espère voir pleines. C'est les mallettes de pèse et les manettes de play. Je mets les écouteurs, calcule pas le chauffeur. Ça bouge pas comme le Mont Rochemort ou bien mon roster. Y a toujours.
Avant qu'on parle d'un album dont tu parlais tout à l'heure, sur lequel vous avez travaillé un moment avant qu'il sorte, qui est justement Mémoria de Jazzy Bass, j'aimerais qu'on fasse un petit exercice, un petit jeu, toi et moi. C'est que tu le disais, finalement, t'es dans cette logique de beaucoup collaborer avec des gens qui sont proches de toi en tant que producteur, justement. J'aimerais que, je vais te citer des noms, j'aimerais que tu me dises c'est quoi un peu leur forte, tu vois, leur point fort à chacun qui fait que vous vous complétez bien.
Ok.
Comme ça permet aussi de présenter, tu vois, d'autres personnes avec qui tu travailles et leur son.
Bonne idée.
Lou Mosquit, on a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, donc du coup, je l'avais noté, mais finalement, t'as dit pas mal de choses sur lui.
Ok.
Marty Santi,
je dirais... son oreille, ses remarques, tu vois, c'est souvent pertinent quand il parle de, par exemple, sur un sample que je pourrais être en train de faire, ça c'est relou, ça c'est bien, t'inquiète, essaye ci, essaye ça. Je trouve que c'est très pertinent et souvent quand je mixe, il me donne des retours et c'est très pertinent aussi, tu vois.
Donc vraiment. C'est l'oreille, quoi.
L'oreille, la vision un peu, tu vois, la vision du. La vision, ouais, globale. Et son choix de sample aussi, il choisit bien, il trouve des bons diggers, très bons diggers.
Monomite, pardon.
La folie, je dirais. Et la folie. Mais les skills sont tellement... Il est tellement fort qu'en fait, sa folie, elle est tout le temps maîtrisée. Je sais pas comment expliquer, mais avec lui, tu vas rarement faire un truc standard. Et nul. C'est très peu probable. Et lui tout seul, c'est encore plus... C'est abusé. Vraiment, ouais, c'est un des... Il a cette folie, ouais. Il a une folie... Il est pas comme les autres produits. Il voit pas la musique comme nous autres, les beatmakers. Ok. Voilà.
Pibé,
son accent, déjà. Pibé, je saurais pas dire précisément, mais c'est, je crois, le gars avec qui j'ai le plus de collabs qui sont sortis. Mais on s'entend vraiment bien sur... on arrive bien à faire des allers-retours sur l'ordi en fait quand on fait des prods et on est sur la même longueur d'onde. Je pense qu'on a vraiment pas mal les mêmes goûts et il a pas quelque chose que j'ai pas, on va dire, j'ai l'impression qu'on se complète beaucoup.
Ouais.
Enfin pas qu'on se complète mais
vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde.
On est sur la même longueur d'onde et du coup bah en fait ça marche naturellement quoi. Mmh. Quand c'est nul, on trouve c'est nul, quand c'est bien, on trouve c'est bien et on sait lui s'est rajouté quelque chose quand moi j'ai plus d'inspi et inversement donc ça donne beaucoup de prod, on a fait beaucoup de prod ensemble.
Wavy Vaillé.
Wavy Vaillé, je dirais la détermination qui lui a donné du coup, enfin qui l'a amené à avoir un niveau de maîtrise excellent en fait. Il n'est pas encore très actif et tout, mais en termes de lui, c'est la trappe.
Ouais.
Et en termes de trappe,
c'est l'impression qu'il m'a laissé aussi la seule fois que je l'ai vu.
Ouais. Ouais, ouais. Il est super chaud. Et lui, pour le coup, c'est un énorme bosseur. Donc et lui aussi, ce qui me fascine, c'est sa capacité à être inspiré et, tout le temps. Il peut faire 10 prods d'affilée dans la journée sans bloquer, trouver que c'est nul et jeter, tu vois. Mmh. Il va réussir à faire des prods, en fait, illimités.
Ocha,
bah, la musicalité, je dirais. L'élégance. Lui, c'est l'inverse de moi, par exemple, quand je fais du crack. C'est l'inverse opposé. On a déjà fait quelques prods. On avait fait une prod un peu crack et tout. Et il n'était pas familier avec ça, en fait. Ouais. C'était marrant, tu vois. Lui, c'est beaucoup plus instrumentalisé, élégant, des belles mélodies et tout. Et je trouve qu'il est très pertinent, en fait, très efficace pour amener vraiment une émotion, tu vois, que tout le monde va ressentir sur un son.
Cheval blanc,
je dirais, c'est un peu comme Pibé. Mm-hmm. On se complète vraiment pas mal. Et lui, il a aussi beaucoup ce côté SoundCloud.
Ok, ouais.
Il m'a initié un peu à tout l'univers un peu funk qui existe, en fait, de la trap, un peu Memphis, tout ça. Et j'ai grave kiffé. Et lui, il a un peu ce. Il vient de là, en fait. Mm-hmm. Et du coup, ouais, on a eu beaucoup de facilité à collaborer. Maintenant, il est beaucoup plus en tant que rappeur. Mmh. Il est en train de finir un projet là sur lequel il rappe. Et du coup, on produit un peu moins ensemble, mais j'ai beaucoup de plaisir à produire avec lui.
Ok. Je le disais, en 2022, donc début 2022, même toi, ça a l'air de te surprendre. Il y a la sortie de cet album de Jazzy Baz, vu que visiblement, vous avez bossé un moment dessus.
Sur lequel il y a tout un peu tout le monde que
tu
as cité.
C'est pour ça, tu vois, que je voulais citer ces personnes-là, parce que ça me permet aussi d'introduire finalement cet album-là, qui a été un travail, du coup, pas mal collectif. Donc tu le disais, vous avez travaillé dessus pendant un moment. Ça a été un album qui a été long à faire, justement, ce disque-là, parce qu'il y a eu des hésitations, des doutes, ou c'est simplement qu'il a fallu être exigeant aussi. Tu parlais d'exigence tout à l'heure.
Ouais, ça a été long à faire, mais je dirais pas. Je m'inclus pas, on va dire, dans. Je sais pas comment expliquer ça, mais en gros, ça a été long dans la mesure où juste Jazzy, il met longtemps à faire un projet. Mm-hmm. Enfin, jusqu'à maintenant, en tout cas, il met longtemps à faire un projet.
Tout à fait.
Parce qu'il a besoin de faire beaucoup de sons, des. Tu vois, il a besoin, je pense, de repartir un peu à zéro. Mm-hmm. Donc, ça prend du temps jusqu'à ce qu'il y ait une sorte de prise de confiance pour lui et que d'un coup, il arrive au niveau auquel il voulait être.
Ouais.
Et là, il fait les sons qu'il voulait faire. Donc, il y a eu le confinement, il y a eu 2 ans peut-être entre nuit et vraiment les premiers morceaux qui ont été gardés. Mm-hmm. Plein de maquettes et tout. Mais moi, j'étais pas encore très, très présent. Pardon. On bossait un peu, tu vois, mais j'étais pas aussi présent que sur la version finale.
Ouais.
Et je sais pas si c'est lié, mais en tout cas, quand il est venu un peu plus faire appel à moi, en tout cas, et juste quand il est venu traîner plus au studio et que du coup, on a fait du son de manière naturelle, et ben à partir de là, l'album a commencé à prendre plus forme. Et ça a été quand même un travail, surtout de sa part, tu vois, de très minutieux, de vraiment bien choisir les prods, les sons, de réarranger. Que son écriture elle soit genre impeccable au max. Moi, j'ai juste aidé, tu vois, du mieux que je pouvais. Là, j'ai tout enregistré quasiment. Je faisais beaucoup, tu vois, un peu de réal sur les sessions. beaucoup les prods aussi. Donc, juste naturellement, en fait, j'ai eu un peu plus un rôle de co-réal avec lui, on va dire, tu vois. Mais c'est pas quelque chose qui était acté de base, tu vois, pas du tout.
Ça s'est fait de manière très naturelle, quoi.
Oui, en fait, c'est ça.
Ce serait quoi un ou deux morceaux qui te semblent représentatifs, toi, des idées musicales que tu as voulu développer avec lui sur cet album-là ?
Arkham Anthem, je dirais que celui-là, je le mettrais dedans.
C'est crack, on peut
c'est
dire.
Du crack. C'est et du puis, crack. C'est une propale un peu, tu vois, c'est original. C'est vraiment une prod un peu... Encore une fois, je saurais pas la refaire, celle-là, tu vois. C'était une inspi comme ça, d'un coup, bizarre.
Il y a plein de petits détails, je trouve.
Ouais, c'est ça. Ce morceau, ouais. Et puis, elle a un truc, elle a une ambiance... On aime ou pas, mais je trouve qu'elle a vraiment une ambiance spéciale.
Pas besoin de faire l'arrogant pour envoyer du chum. Moi, je te voyais plus jeune, presque au yep de mon clan. Tu vois, te faire mal au temps, si tu brailles, c'est plus chum. Si tu tailles, c'est plus sage que de te mettre dans mes plans.
Ça, je pense que c'est ma prod préférée, entre guillemets, juste parce qu'elle est quand même plus originale, en fait, de ce que j'ai pu faire. Sinon, j'aime beaucoup, par exemple, Nouvelle 314.
Ouais.
Je trouve que c'est quand même c'est assez simple, en réalité. C'est un
c'est sample, très épuré, ouais.
Une batterie, une basse et il rappe. Mais j'aime bien, je trouve que Jazzy sur ce créneau-là, je l'aime beaucoup.
Ah, ça lui va bien, ouais.
Tu vois, ça lui va bien. Quand les étoiles sont alignées, il a choisi la bonne prod, il envoie les bonnes bars et tout. Ça marche trop bien. Et celui-là, avec le temps, en fait, c'est un que je kiffe beaucoup. Notamment en concert aussi, quand on le joue. Quand on est en studio, je nous l'a fait, j'imaginais pas. Mais en concert, quand on le fait, le refrain, les gens, ils sont trop chauds dessus. C'est trop bien.
Comme ici, on anticipait. Je sais pas trop comment, chaque année les tarots augmentent. Anti-système, tant que je suis pas aux commandes, je bombarde au volant. De l'Audi A7, j'écrivais pour laisser une trace, mais ce monde va bientôt disparaître. Profit à faire, je sais plus quoi faire pour que les insomnies s'arrêtent.
C'est un album en tout cas sur lequel il y a eu un retour public très vite, puisque je crois qu'il fait numéro 1 quand il sort, ouais. De mémoire, c'est ça. Avec beaucoup d'achats en physique en plus, donc il y a vraiment un engagement. Toi, justement, en tant que musicien qui a été longtemps sur des projets. Plus confidentiel. Comment t'as vécu justement ce succès d'un seul coup ? Est-ce que même toi, même si c'est pas ton disque à toi en particulier, sur lequel t'as été très impliqué, voilà, comment t'as vécu ce...
Ah, ça m'a fait plaisir. Ouais. Hein. Ça m'a fait plaisir parce que c'était pas la première fois, mais c'était une des premières fois où vraiment, concrètement, il y avait, je sais pas comment dire, statistiquement,
ouais.
On était, enfin en tout cas, son album là était numéro 1, top album. Je sais plus combien de ventes, mais il avait fait son record de ventes, je crois, 13 000, un truc comme ça. Pour nous qui faisions des projets, enfin moi qui faisais des projets où c'est jamais dans les classements, etc., ce qui est normal, tu vois, c'est des projets plus jeunes. Là, ça fait plaisir de voir à quel point ça peut plaire en fait à beaucoup de monde ce qu'on fait, tu vois. Et Jazzy a permis un peu de montrer ça parce qu'il était plus exposé déjà et en venant nous chercher, nous autres jeunes producteurs moins exposés, il nous a un peu tous mis sur le devant de la scène d'un coup et il nous a un peu ouvert les yeux, tu vois, sur tout ça. Et puis même de voir, j'allais sur Twitter, j'allais voir un peu les sons, je tapais le titre du son, ouais, les gens qui kiffaient ce son, cette prod, ce truc et tout, ça me faisait plaisir. Et même voir aussi les autres artistes qui postaient l'album, qui kiffaient, d'autres artistes que j'écoute et tout, etc., tu vois, ça m'a... Ça fait plaisir et ça me met en confiance pas mal aussi, tu vois.
Bien sûr.
Maintenant, il est disque d'or, premier disque d'or de Jazzy. Franchement, ça fait plaisir. C'est grave, une grande fierté pour nous.
Ouais, c'est gratifiant.
Exactement. Surtout qu'on est vraiment quasiment tout notre groupe, on est dessus. Producteur, O en feat, tu vois, Edge il a deux feats, Rob il a un feat. On a vraiment fait ça tous ensemble. Donc, c'est une grande victoire.
Collective,
voilà.
En plus d'être individuel pour lui, exactement.
Exactement.
Sur cette même année 2022, il y a d'autres disques intéressants. Tout à l'heure, je parlais de Rien ne change de Rob Desbloch, qui continue à s'affirmer en même temps que toi aussi. Mais il y a aussi ce truc sur la famille un peu élargie, aussi bien un truc de Ratus et Edge, par exemple,
ouais.
En Les Guild.
Exactement, c'est ça.
En Les Guild, j'adore ce titre. Et il y a la Saboteur mixtape aussi.
Ouais.
Et je trouve que tu vois, justement, sur ce truc de sortir, peut-être pas de ta zone de confiance, parce que c'est peut-être, comme tu dis, des choses que tu faisais déjà, mais qui n'étaient pas forcément prises. Mais en tout cas, nous, en tant qu'auditeurs, on se dit « Ah, ok, Johnny, il sait aussi faire ça. » Ou en tout cas, sur les collaborations qu'il a avec d'autres producteurs, ils peuvent aussi produire des choses comme ça. Tout à l'heure, je parlais de Rio, par exemple, aussi sur Saboteur. Moi, sur En Les Guild, il y a un morceau qui est, encore une fois, cette rencontre Saboteur-Goldstein, justement, le morceau qui s'appelle comme ça, où d'un seul coup, tu reviens un peu à tes, Premiers Amours, quoi. C'est un morceau un peu plus boomba, plus lent, avec cette impression de sample,
ouais.
Qui en est peut-être un ou pas,
c'est
je ne sais pas.
C'est totalement un sample.
C'est totalement un sample, tu vois. Donc j'ai l'impression qu'il y a un peu ce truc de montrer ou remontrer que tu fais d'autres choses, tu vois, ou que t'as cette possibilité de le faire, quoi, sur un morceau comme ça.
C'est vrai.
Plus rien n'est pareil, les petits bâtards ne rentrent jamais l'appareil. Je dois rentrer léger, je reviens de CTG. La douane j'ai baisé, y'avait minimum 3 chiffres à la peser. Le rap c'est pesant, soirée je suis dedans. J'entrerai jamais si tu laisses mes loups devant. Fini en bagarre dans la pluie et le vent. Grillon on lui fait sauter ses 32 dents.
Ouais, j'avais envie de faire un truc un peu Schoolboy Q, un peu, tu vois,
ouais.
Dans l'ambiance.
Ah ouais.
Un peu dégueulasse, sample et tout. Et en fait, ce son, il était en vrai dans la Saboteur Mixtape. Enfin, il était dans une tracklist potentielle de la Saboteur Mixtape.
Okay.
Et il a fini dans le projet en Les Guild. Du coup, celui-là, on l'a fait en même temps que Rio, dans la même résidence, avec d'autres sons de la Saboteur qui sont sortis.
Ouais, parce que finalement, ce projet Ratus Edge, c'est un peu, un appendice, ou en tout cas une version alternative de ce que peut être aussi la Saboteur Mixtape, vu qu'il y a beaucoup de gens qui se croisent, ouais. Je veux dire, tu vois.
Alors, pour le coup, on a fait quasiment tous les sons. Mm-hmm. En une semaine, avec Edge et Ratus, on est parti pareil en résidence ailleurs. Mais celui-là, c'est un des rares qui était déjà là et qu'on a mis dedans. Qui va très bien dedans, je trouve. C'est la première fois quasiment que Edge fait un couplet rap sans autotune, dans lequel je trouve il découpe. Franchement, ça fait trop plaisir. Donc, il y avait vraiment une énergie. Ils se sont montés la tête entre eux quand il y a eu la prod. Et quand ils ont entendu la prod, ils ont dit vas-y, on fait ça et tout. Et. Là où Edge, il aurait pu ne pas poser sur ce son, parce qu'on l'attend pas trop sur ce son, bah là, je crois Ratus, il l'a trop chauffé. Du coup, ils sont amusés, tu vois.
C'est le côté hype man que peut avoir
exactement,
Ratus parfois.
Exactement.
On arrive à cette année où il y a deux disques où tu es très impliqué, qui sont le retour, enfin, à son propre nom des Soluxieux, avec un disque vraiment.
Pas le retour, l'arrivée.
L'arrivée, c'est ça. Mais comme en fait, il est là depuis tellement longtemps, ouais. On a l'impression que, tu vois, mais effectivement, c'est son vraiment premier disque en son nom. Et aussi, donc, Cameo Drop des Blocs, qui tu continues justement cette affirmation artistique avec lui. Parlons d'abord des Sceaux. Voilà, j'imagine aussi que c'est quelqu'un que tu connais depuis longtemps avec les relations communes,
exactement.
Etc. Comment t'es arrivé à travailler sur ce disque? Est-ce que c'était une volonté de sa part? Est-ce que c'est quelque chose de purement fortuit à force de se voir en studio? Voilà, comment t'es arrivé?
Ouais, c'est naturel. Hein. Ouais. Ça fait naturellement. Bah, moi, déjà, Sceaux, je trouve trop fort. Vraiment, du coup, j'avais envie de faire du son avec lui. Mm-hmm. Donc, c'est arrivé plusieurs fois que j'ai des prods et que je lui envoie parce que j'ai envie qu'il pose dessus. Mais il faut savoir que Sceaux n'était pas très productif pendant un long moment. Mm-hmm. Donc, il n'y avait pas un rythme effréné. Mais j'ai réussi, en fait, Sceaux, on a réussi quand même à aller le chercher, à le faire poser, etc. Tu vois, et quand son projet a commencé à prendre forme, et ben, en fait, juste de fait, on s'est rendu compte que j'avais fait pas mal de sons dessus, tu vois. Mm-hmm. On va dire dans les deux dernières années. Et ouais, ça m'a fait plaisir parce que je trouve que ça marche bien quand on fait du son. Et puis vraiment, il a une capacité à surfer sur une prod à chaque fois. En fait, j'ai jamais rien à dire.
Il est tellement laid back dans
ouais,
sa manière de
rapper,
ouais.
Tu vois, il va prendre une prod d'une manière où ça fait plaisir quand il pose dessus. Putain, c'est trop chaud. Il a capté, en fait, tu vois. Et
est-ce que du coup sur un disque comme celui-là,
ouais.
Parce que tu travailles avec lui, pareil, t'essayes de viser juste ou juste, tu vois, de dire, je pense que ça lui irait bien, ou au contraire faire aussi des contre-pieds, genre, tiens, c'est marrant, j'aimerais bien que tu poses sur un truc comme ça ou que t'essayes, tu vois, je sais pas, c'est quoi un peu la démarche que tu peux avoir, tu vois.
En fait, c'est pas très réfléchi. Mm-hmm. Je sais pas comment dire, c'est plus inconscient ou. Peut-être s'il est là, je vais faire une prod un peu plus dans ce style. Mm-hmm. Et lui, il kiffe un peu plus ce style. Donc, ça va aller de fait, tu vois, sans vraiment se le dire. Ou, bon, là, dernièrement, on fait du son. Il me dit clairement, vas-y, viens, on fait un truc comme ça et tout. Parce qu'il sait un peu plus, tu vois. Mais je pense que, ouais, quand il choisit une prod, tu vois, qui est en train de se faire ou quoi. Et en fait, lui, il a du goût, en fait. Donc, il repère dès qu'il y a un truc qui est bien, tac, et c'est un peu lui qui choisit, tu vois. Mais il est quand même beaucoup dans le style avec un peu des samples, un peu élégant. Je trouve que, tu vois, il a un peu ce côté dont je parlais tout à l'heure, la funk, un peu SoundCloud et tout, mm-hmm. tu vois, il est dans ce délire-là. Mm-hmm. Donc, genre, ça donne envie de faire un peu des sons comme ça avec lui. Tu vois, on a fait le morceau 10 grammes mm-hmm. avec Cheval Blanc. Mm-hmm. Et, il a un peu des sonorités de ce style-là, je trouve. Et je trouve ça, ça lui va vraiment bien. Avec des samples un peu... des trucs un peu plus planants,
ouais, ouais.
Tu vois, sans que ce soit forcément cloud plus, mais avec des screws un peu, tu vois, des samples, des voix screws, des FX un peu, des trucs...
Oui, au vu de sa manière de rapper, c'est vrai que ce genre d'ambiance, ça lui va bien. Ouais.
Et puis lui, il est bousillé de la Tri-6, Zero, tout ça. Donc en vrai, c'est le style qu'il aime, juste un peu remis un peu plus au goût du jour.
J'aime ni les vipères, ni les commissaires. Je pense qu'au profit, moi, une prolifère. Je roule des conifères. Dès l'œil qui s'y bat, ça balance avec ou sans rocking chair.
Et donc, je le disais, il y a aussi Caméo de Rob Desbloc qui est sorti cette année. Pareil, est-ce qu'il y a la volonté d'enfoncer encore un peu plus le clou là, puisque là, tu réalises encore plus avec lui, j'imagine. Est-ce qu'il y a sur ce disque, tu vois, un morceau, deux morceaux sur lequel il y a eu ce truc de allons encore plus loin, quoi, tu vois?
Et ben ouais, pour le coup, justement, le morceau Pourquoi. En vrai, il avait posé, on avait fait un son en résidence sur une prod voilà, que j'avais fait le jour même. Et finalement, il s'est retrouvé à reposer le son sur la prod qui est sortie en l'état, qui n'a rien à voir. À la base, c'était une trap. Et j'ai kiffé justement que. On aimait beaucoup le son de base. Je sais pas pourquoi il a voulu le poser sur un autre truc, parce que moi, j'avoue, je l'aurais gardé tel quel. Mais j'ai kiffé que justement, ils prennent une prod qui a vraiment rien à voir et qu'ils le posent dessus. Et là, pour le coup, c'était un peu plus son initiative, tu vois. Même si c'est moi en prod dessus, tu vois, en coprod. Que vraiment, ça donne un... Ça affirme un peu plus son style que j'aime bien, en fait. Le côté que j'aime bien de lui, tu vois. Je sais pas, le côté un peu bagarreur. Les prods un peu punk, tu vois. Les vestes en cuir, tout ça, dans le clip et tout. Je trouve que ça lui va bien, ça, tu vois. Et en vrai, à l'avenir, là, on est en train de bosser un peu aussi des trucs, mais j'ai quand même, je suis attaché, tu vois, à l'idée de qui garde un peu ce côté-là, tu vois.
Débite comme un grossiste, même si j'ai un prénom de Jean-Clé. Pour Paul, j'attends d'avoir le compte rempli. Pour l'instant, je suis dans le métro sans clim. Ouais. Beaucoup de gens pour qui je donne pas un fuck. Si je remets pas ta gueule, c'est pas ma faute. Et t'as peut-être rien d'info, mais tant que j'ai pas l'info, toi, t'auras pas d'info. Je regarde.
Est-ce que là, sur cette première partie discographique, je te souhaite qu'elle soit encore plus longue, évidemment. Il y a parfois eu des moments où des principes de ce que tu as appris, soit de manière théorique, soit de manière très empirique avec la pratique, d'ingé son, ça rentre en contradiction avec des choses que toi ou des gens avec qui tu bossais faisaient en termes de son. Tu sais, des trucs, des fois, ça sonne pas... Parce que c'est le rap, c'est pas une musique académique. C'est pas obligé de sonner bien, juste, etc. Mais tu sais, comme toi, tu es aussi un ingé son sur les volumes, les fréquences, etc. Des fois, ça rentre en contradiction et il faut que tu fasses des choix, tu vois, selon pour la cohésion créative, ouais. Artistique ou tu vois ce que je veux dire?
Je vois un peu. J'ai l'impression que c'est plus en fait une question de goût et de parti pris en fait. Tout ce qui va sortir en vrai, tu vois, vu que le rap c'est pas académique comme tu dis et tout, c'est vraiment l'artiste qui choisit ce qu'il veut sortir sous la forme qu'il veut sortir. Du coup, ça donne des trucs des fois un peu aléatoires. Mais le morceau là, XXXTentacion, complètement saturé, par exemple, ça va à l'encontre de ce que tout le monde essaye de faire, de ses propres trucs et tout, tu vois. Mais je trouve pas que c'est un problème, tu vois. Mais je sais pas si c'est bien la question.
Je sais pas si t'avais eu un cas concret, par exemple, toi, mais où ça a pu t'arriver, justement, il a fallu faire un choix entre ce truc de ok, moi je sais comment ça doit bien sonner, c'est-à-dire, tu vois, tout ce spectre sonore que je connais en tant qu'ingé son, et en même temps, je comprends l'intention musicale que moi-même, peut-être toi-même, a pu avoir, ou d'autres, tu vois.
Par exemple, je dirais par exemple sur le morceau Off de Edge, on voulait, tu vois, le lead qui est à la fin, qui est superstar. Quand on l'a fait, en fait, quand Loub il l'a joué, il nous a cassé les oreilles. Et donc, en vrai, on a voulu garder un peu ça en mettant très fort, tu vois. Et on m'a déjà dit, à l'époque des mix et tout, genre, c'est trop fort, baisse-le, tu vois, ça fait chier un peu, ça casse la gueule. Mais volontairement, on voulait le mettre un peu trop fort, tu vois. Moi, en fait, je crois, plus le temps passe, plus j'aime bien des fois quand certains éléments sont un peu trop forts, tu vois. Histoire de vraiment un peu plus appuyer sur un truc où ça pourrait être plus agréable à écouter, mais quand c'est un peu trop fort, c'est plus osé, je sais pas, c'est plus stylé en fait, ça affirme plus le style. Et Il y a aussi des sons de Drake souvent où il y a des parties pris des fois, tu vois, des trucs qui sont super bas ou super forts dans le mix. Et moi, je trouve que ça donne vraiment du caractère, en fait.
Ouais, je suis d'accord.
Tu vois, à la musique.
Ouais, ça donne du grain, ça donne de la personnalité, quoi.
Et puis, tu ressens vraiment à ce moment-là, genre, la volonté de l'ingé ou du producteur derrière qui a voulu faire ça. Et tu l'entends comme ça, tu vois. Tout n'est pas au même niveau. Mm. Et j'aime bien ça quand vraiment, en écoutant le son, tu peux comprendre, ah oui, il a voulu faire ça. C'est comme ça qu'il voulait que ce soit. Bah, c'est grave stylé.
Est-ce que t'as des envies, des projets perso, là, moyen, long terme? Est-ce que c'est de continuer à faire de la réalisation complète? Est-ce que c'est faire, je sais pas, de l'instrumental, de la musique à l'image? Tu vois, c'est quoi un peu tes envies et tes projets sur le proche, court terme?
Bah, j'aimerais bien faire sortir un projet à mon nom sur lequel j'invite des artistes. Mm-hmm. Tu vois, j'ai déjà l'idée en cours. J'ai déjà tout début, tu vois, vite fait quelques maquettes. Mais j'ai du mal à m'y mettre concrètement parce qu'il y a beaucoup d'autres trucs à faire, tu vois, des projets autour. Mm-hmm. Mais ça, j'aimerais beaucoup, histoire de vraiment avoir un projet où c'est moi un peu qui décide un peu tout, tu vois.
Ouais.
À part ce qui va être rappé, mais en général, si j'aime bien, je garde, si j'aime pas, je garde pas. On va dire que c'est moi qui choisis et je fais aucune concession. Ça, j'aimerais beaucoup, mais bon, ça c'est prévu, mais je sais pas du tout quand ça va être prêt. Mmh. Et puis, continuer à faire des projets en commun, en fait, avec un artiste. J'aime bien aussi ça, des petits formats, par exemple, comme là, Agent Crack et Hologram Low, tu vois, ils viennent de sortir.
Ouais, tout à fait, ils viennent de sortir il y a deux jours là.
C'est incroyable, c'est trop chaud. Et j'aime trop, moi, ces formats, tu vois. Même si c'est plus que trois titres.
Le côté spontané de la musique.
Le côté spontané. Je pense le côté... je ne sais pas si ça s'est passé comme ça, mais j'imagine qu'ils voulaient juste faire du son ensemble. Et puis, au lieu de garder un track pour le prochain album dans un an et tout, ils se sont dit, ah ouais, tiens, quête, on a deux, trois sons, viens, on les sort. Putain, comme as. Et moi, j'aime bien ça, tu vois. Vraiment, quand du coup, il y a une couleur très précise. Et c'est pas trop théorisé, etc. Tu ressens vraiment... les deux parties, tu vois, tant dans la prod, dans le rap et tout, tu vois, je sais pas comment dire. J'aime bien ces projets, tu vois, en commun. Et j'écoute beaucoup, notamment Larry June avec Alchemist, par exemple, tu vois.
Dog White Escape qui est sorti cette année, là, qui est très cool.
Je me suis explosé avec ce projet. Ouais. J'aime trop, tu vois, quand il y a une couleur vraiment sur tout le projet, en commun, tu vois, quand c'est vraiment un projet en commun, j'aimerais bien le faire.
Ok.
Tu vois, en vrai, c'est déjà un peu le cas, par exemple, avec Rob et tout, mais. Des fois, pourquoi pas faire des petits formats comme Replay 2, par exemple, ou même avec d'autres artistes. J'aimerais bien, pourquoi pas, je sais pas, des idées avec Esso, faire un petit projet un peu plus SoundCloud, style 5 titres, tu vois, ou un projet comme ci avec lui ou comme ça avec lui. J'aime bien, en fait, ces idées de sortir un peu du format un peu album ou EP où il faut un son comme ci, un son comme ça, et il faut que la tracklist, ça soit bien et tout. Quand t'as moins de titres, c'est plus facile à faire. Et j'aime bien.
Il y a moins de contraintes.
Ouais, et du coup, il y a moins de concessions et de réflexions. C'est plus vraiment brut. Le style qui a été fait à ce moment-là, tac, ça j'aime bien, tu vois, capturer ces instants. Ouais. J'aimerais bien faire ça.
Dernière question, j'aime bien vous torturer un peu. Je vous torture
n'hésite
avant.
N'hésite pas.
Je vous torture avant ou quand je vous demande c'est quoi votre production. C'est ça, moi c'était Freeway, ouais. What We Do de produit par Just Blaze. Et j'aime bien vous torturer avec une dernière question. Si tu devais te présenter à quelqu'un qui ne connaît pas ton travail, qui ne connaît pas ton œuvre, en une production de ton répertoire, ce serait laquelle?
Ah, ce serait Schéma Monotone.
Ah, ouais, bah tu vois.
Direct.
Rapide.
Ouais.
Bah oui, non, mais c'est vrai que ça.
Ouais, direct. Je pense que c'est mon son préféré. Tout ce que j'ai pu faire, tant lui ce qu'il fait que moi aussi, vraiment reste.
Quitter un peu mon étau, difficile vu mon état. Sa mère c'est la même tous les soirs, je vagabonde jusqu'à tard. Quitter un peu mon étau, difficile vu mon état. Sa mère c'est la même tous les soirs, je vagabonde jusqu'à tard.
Merci beaucoup à toi, Johnny Holler, d'avoir été présent. Bah, avec grand plaisir. Merci à vous d'avoir écouté BPM, le podcast de conversation avec des producteurs de Bouscapé. N'hésitez pas à vous abonner pour écouter les précédents épisodes et les prochains. Portez-vous bien et à bientôt.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.